Chapitre 2. Tyrol autrichien. De fait, les oiseaux chantaient sur la route d'Innsbruck. Le ciel était d'un bleu sans nuages, et l'été finissant se parait déjà des langueurs de l'automne. Dans sa livrée de chauffeur flambant neuve, Toulbahadur Tapa avait fière allure. À l'arrière, Christian Lloyd tentait de s'en persuader. Il était devenu Monseigneur Mario da Silva, né à Tiracol, Estado da India, le 17 juillet 1890, alors que, sur les bords du Nil, celui-ci poursuivait son ultime métamorphose dans le cimetière chrétien du Caire. Avec toute la puissance de ses 140 chevaux, l'Hispano Suiza avalait les kilomètres avec allégresse. Hostile à la modernité, Christen ne savait pas conduire et ne décrochait jamais un téléphone, invention dont l'intérêt lui paraissait limité. « Je n'aime pas être sifflé, disait-il. Si les nouvelles sont mauvaises, gardez-les pour vous. Si elles sont bonnes, eh bien, elles le seront encore demain ou après-demain. » Les mots l'intéressaient plus que la mécanique. Il se flattait de connaître leur histoire, n'hésitant pas, par jeu, à inventer des étymologies farfelues. Il prétendait, par exemple, que le nom Fiat avait été imposé par un latiniste du Vatican, et que Mercedes était un clin d'œil au comte de Monte-Cristo de Dumas. La crédulité des gens le comblait d'aise. « Ils sont prêts, grognait-il, à gober tout ce qui est invérifiable, astrologie, bondieuserie, idéologie. Plus c'est idiot, et mieux ça prend. » De Rome à Brennero, le voyage s'était déroulé sans anicroche. Comme prévu, Pietro, le neveu de Monseigneur Borghese, les quitta à la gare de Bologne, d'où il entendait filer vers la Sicile. Les craintes des voyageurs avaient été vaines, et aucun barrage policier ne ralentit leur progression vers l'Autriche. Arrivés dans l'après-midi à Brennero, ils décidèrent d'y passer la nuit. Les montagnes qui dominaient le vallon leur rappelaient leur dernier séjour à Shimla, 10 ans auparavant. Nés sur les pentes de l'Himalaya, tous deux respiraient mieux en altitude. En consultant sa carte, Christen constata avec amusement que le poste frontière italien était à la même hauteur que Shillong, sa ville natale. Il voulut y voir un signe positif, de même qu'il fut heureux de découvrir que Goethe, l'un de ses écrivains préférés, avait dormi à Brennero en 1797, mais lui voyageait dans le bon sens, puisqu'il se rendait à Rome. Ils passèrent la frontière au Champ du Coq. Adrian Forstin avait choisi avec soin l'heure et le jour, un dimanche matin. Durant un petit quart d'heure, le changement d'équipe entraînait un léger flottement à la douane. De fait, les Italiens ne leur accordèrent aucune attention, sauf l'un d'eux, qui alla aussitôt téléphoner à sa femme, laquelle, comme il était convenu, appellerait Foster à Rome. Le passage fut aussi facile à Brennersee, sur le versant autrichien, ou fallait-il dire le versant allemand, puisque l'Autriche, pays natal de Hitler, faisait désormais partie du Reich. L'accent, en tout cas, ne trompait pas. C'était bien des Autrichiens qui vérifiaient les passeports. Par là même, ces douaniers étaient sans doute catholiques. Le Vatican était pour eux un état ami, celui de leur foi. Depuis le départ de Rome, Lloyd s'était coulé dans la peau de Monseigneur da Silva, ce qui était facile puisqu'il ne savait presque rien de lui. On attendait donc de Christen un jeu d'acteur, un travail de composition. Et d'ailleurs, il arborait un costume impressionnant. Une vaste soutane noire ornée de dizaines de boutons, ce qui compliquait beaucoup la tâche aux toilettes. Un large chapeau de carnaval agrémenté de cordons et de glands de soie. Dans le vaste coffre de l'Hispano Suiza, une garde-robe simplifiée comportait une autre robe noire et une troisième de couleur pourpre, à laquelle Foster tenait beaucoup. Le noir, disait-il, plaisait aux Allemands, mais le rouge, plus distingué, ne pourrait que les impressionner. Il y avait aussi d'autres accessoires, le passeport diplomatique de Da Silva, le passeport de service pour Tapa, des souvenirs du Proche-Orient, des notes d'hôtel, un bréviaire en portugais, les 5 derniers numéros de l'Osservatore Romano, une musette noire avec une étole et une custode, sans oublier 2 précieuses encycliques condamnant le communisme, Nostris et Nobiscum de Pie IX et Divini Redemptoris de Pie XI. Elle voisinait avec l'autobiographie de Nehru et l'exemplaire des sept piliers de la sagesse. Pour la couleur locale, il y avait deux cartouches de cigarettes Africa et quelques paquets de Jubek ornés d'un sphinx. Tapa, au goût plus modeste, s'était contenté de glisser dans un sac une bouteille de grappa et quelques vêtements. Son koukri était niché au fond de la caisse à outils, mais il s'était promis de l'en extraire dès qu'ils arriveraient au monastère. Une des poches de sa livrée recelait du tabac à priser Zenzilio. Comme tous les Népalais, le Gurkha, gros fumeur, ne dédaignait pas non plus une petite prise à l'occasion, surtout le matin pour se dégager les fosses nasales. Pour les dialogues, Christine devait improviser. Seules certaines répliques étaient obligatoires, les mots de passe qu'il avait mémorisés. Le plus délicat serait de ne pas oublier qu'il lui faudrait désormais parler allemand avec l'accent indien. Comme il aimait à l'expliquer, l'allemand n'était qu'une des deux façons de parler sa langue maternelle, qui en réalité était double. Christine n'avait pas le sentiment de passer de l'une à l'autre, mais seulement de changer de registre, d'être en quelque sorte un autre tout en restant lui-même. Pour s'amuser, il avait un jour expliqué à un psychanalyste viennois rencontré à Karachi que l'anglais correspondait à son côté masculin et l'allemand à son côté féminin, ce qui expliquait sa nature schizophrène. Le charlatan autrichien en avait tiré un article. Il est vrai que la mère de Lloyd, une luthérienne, était plus rigide que son père catholique. En réalité, cela tenait à leur éducation et à leur histoire personnelle, non à leur religion. Christine refusait de penser qu'il était double sous prétexte que ses parents ne parlaient pas la même langue, puisque pour lui l'anglais et l'allemand étaient les deux dialectes d'une même langue, celle de sa petite enfance. Outre les douaniers, il y avait des soldats allemands, et surtout un civil qui, sans rien dire, fit avec admiration le tour de la voiture et resta un long moment en contemplation devant la cigogne aux ailes déployées, fixée au sommet de la calandre. Il griffonna quelques notes sur un carnet. Un policier, sans doute. Gestapo, Abwehr, Sicherheitsdienst. Christine n'avait toujours pas compris ce qui, dans la pratique, différenciait ses services. Le Reich était une pieuvre géante dont chaque tentacule ignorait ce que faisait l'autre. Même le spécialiste de la question, qui à Édimbourg était venu les mettre au parfum, n'avait pas été très clair. Le douanier leur rendit les passeports en bâillant. « Votre photo n'est pas très ressemblante, éminence, » ne put-il s'empêcher de faire remarquer. Christine dodelina de la tête à la manière des Indiens. Il prit un air confidentiel. « Ah, zo, mon fils, j'ai un problème de peau. Le médecin m'a interdit de me raser pendant quelques mois. » L'homme hocha la tête. De toute façon, il s'en fichait. S'il fallait refouler tous les gens qui ne ressemblaient plus à la photo de leur passeport ou dont l'identité paraissait suspecte, il n'y aurait pas grand monde à entrer au paradis national-socialiste. À commencer par les femmes, qui pourtant ne portaient pas de barbe, mais changeaient d'apparence, de coupe de cheveux et de nom tous les 6 mois. Et puis, tous les Indiens se ressemblaient. Les curés aussi, d'ailleurs. Ils étaient plus ou moins gros et leurs soutanes plus ou moins râpées, voilà tout. Celle du révérend da Silva, par exemple, était impeccable. On avait l'impression qu'elle sortait de chez le tailleur. Du reste, le douanier autrichien se souvenait du vicaire de son enfance qui, voulant devenir missionnaire au Tanganyika, s'était laissé pousser la barbe, ce qui le rendit méconnaissable, en attendant un départ qui ne vint jamais, car la Grande Guerre éclata et il lui fallut partir pour Verdun. « Très bien, éminence, vous pouvez aller, » reprit le douanier. « Bienvenue en... » Il hésita un instant. Il ne savait jamais s'il devait dire Allemagne ou Autriche. Finalement, il se décida. « Bienvenue, en tout cas, » grommela-t-il. Christine fit un signe à Tapa et la voiture prit la direction de Steinach. Entrer en Autriche était facile. Quitter l'Allemagne serait une autre paire de manches. Il en était d'ailleurs ainsi de toutes les choses de la vie, pensa Christine. Tirer sa révérence est plus difficile que d'entrer en scène. Mourir plus dur que naître, et divorcer plus pénible que se marier. entrer à la prison de Liverpool avait pris quelques minutes, alors qu'il avait fallu des mois pour s'en évader. Les ordres du colonel Barnes étaient clairs. Il faudrait improviser. Mais à Rome, Christen avait eu le temps de réfléchir et de prévoir la première étape. Hochlingern, près de Munich, où les attendait Alcibiade, en espérant que celui-ci n'avait pas été arrêté. Il passerait par Innsbruck, Seefeld, Scharnitz, Mittenwald et Garmisch-Partenkirchen, avant de filer vers le sud de Munich, où se trouvait le monastère. Une agréable promenade à travers une des plus belles montagnes d'Europe. 150 kilomètres. Un saut de puce pour l'Hispano-Suiza. Christen alluma une jubec. Le jour se levait sur l'Autriche. Les oiseaux allemands se mirent à chanter. Carlyle. Le commissaire Jackson reposa le câble que le colonel Barnes venait de lui remettre. Le texte était court, mais clair. Kierkegaard et Titus arrivaient ce midi à Lahore. Ce qui, décrypté, confirmait que Christen et Toulbahadour avaient franchi la frontière à 6 heures du matin, ce dimanche 6 septembre. Pour des raisons inconnues, Adrian Foster avait seulement envoyé son message dans l'après-midi. Barnes regarda sa montre. Il était 16 heures, ce qui signifiait que les deux voyageurs étaient sans doute arrivés au monastère de Hochlingern, où, si tout allait bien, il passerait la nuit avant de poursuivre sur Berlin. « Eh bien, murmura Barnes, les loups sont enfin dans la bergerie, comme on dit, je crois, en gallois. »« Mauvaise traduction, corrigea le policier, c'est exactement le contraire. Les moutons sont dans l'antre des loups. » Le colonel hocha la tête. « Oh, je ne suis pas sûr que nos protégés soient des moutons. Ils n'ont pas intérêt à l'être s'ils veulent revenir vivants. » Il s'arrêta un instant comme pris en faute. Il se sentait coupable d'avoir envoyé Christian et Tapa à l'abattoir, mais que pouvait-il faire d'autre, puisque tels étaient les ordres? « Au fait, reprit Barnes, tu n'as rien appris de nouveau depuis mon départ pour Malte ?»« Justement, Kevin, j'allais t'en parler. » Jackson se servit une rasade de whisky. Depuis 3 jours, son concert se tenait quoi? Mais le Gallois savait que la rémission serait brève. Il se dirigea vers une tablette encombrée de papier. Comme il fallait s'y attendre, le dossier Bushido était le dernier de la pile. Maintenant que l'opération Bushido était lancée, Paternoster devait déjà penser aux autres missions. « Voilà, » fit-il en reprenant place sur son siège, « nous avons eu des informations intéressantes. Tu m'excuseras de ne pas t'en avoir parlé dès ton retour. » « Nous avions d'autres chats à fouetter. » « À propos de chats, justement. » Nous avons d'excellentes nouvelles de Todmorden. Tout baigne. Une dame de la Société royale de protection des animaux s'en occupe. Par ailleurs, il ouvrit le dossier qu'il tenait entre les mains. Par ailleurs, nous avons reçu la réponse du colonel Cockburn, des archives militaires. À notre demande, il a tout vérifié, à la loupe et même au microscope. Rien à dire sur M. Tapa. Sur Christian Lloyd, en revanche, un point reste obscur. « Voilà, tu te souviens de son curriculum vitae ? Il y avait un trou. Je te rappelle les termes exacts. Blessé à Perthes-lès-Hurlu le 11 août 1915, dossier militaire incomplet. Cela nous avait paru bizarre. Eh bien, Cockburn a fait chou blanc, mais par recoupement, il a cependant réussi à en savoir un peu plus. La vérité est que Lloyd a été blessé à la jambe droite, 6 mois dans un hôpital parisien. Il a sauté sur une mine en essayant de sauver un Français qui, lui, y est resté. Pour cet acte de bravoure, la France lui a octroyé la Légion d'honneur, promotion de Noël 1915, honneur que Christian Lloyd a refusé. Il n'a pas voulu non plus de la Victoria Cross. Question de principe, paraît-il. Curieux bonhomme. Bref, après 6 mois d'hôpital, notre héros a été rapatrié en Angleterre. Puis l'état-major l'a muté aux archives. Autrement dit, tout porte à croire que c'est lui, et personne d'autre, qui a fait disparaître la partie manquante du dossier, celle justement sur l'année 1915. Dans quel intérêt? Ah, ça je l'ignore. Mais le colonel Cockburn n'a pas dit son dernier mot. Il va consulter les archives du régiment. Des tonnes de dossiers, j'imagine. Et notre archiviste a par ailleurs pris contact, par l'intermédiaire des Suisses, avec le secrétaire général des anciens combattants à Paris. Les Français adorent la paperasserie. Il y a peut-être un rapport quelque part, puisque Lloyd avait été proposé pour la Légion d'honneur. Jackson refermait le dossier quand Joyce pénétra dans la pièce, un nouveau câble à la main. Sa chevelure flamboyante mit un peu de couleur dans la grisaille de la pièce. Dans une autre vie, quand il était en pleine sève, le policier avait retrouvé à Aberystwyth une rouquine de Châtellerault. 30 ans après, il gardait la nostalgie de la nuit de feu qu'ils avaient passée. Joyce remit le message au colonel, qui fit la grimace. Il se tourna vers son ami. « Les choses se compliquent. Le Saint-Siège vient d'apprendre le vol de l'Hispano-Suiza. Déjà, je croyais que les Italiens ne s'en seraient pas rendus compte avant plusieurs jours. » Barnes acquiesça. « C'est en effet ce que nous espérions, mais les voies de Dieu sont impénétrables, surtout au Vatican. Nous ne pouvions prévoir que notre bienfaiteur, Monseigneur Casimiro de Carlo Agliata, serait allergique au scalpel. Plus très jeune, il est vrai. 86 ans. La fleur de l'âge au Saint-Siège, grommela Jackson. Il savait que lui n'irait pas jusque-là. Il doutait même de pouvoir fêter ses 50 ans le 25 janvier. À quelques heures près, grommela Barnes, nos hommes auraient été arrêtés à la frontière. Ce qui, après tout, aurait été une bonne chose pour eux, répliqua le policier. Mieux vaut les prisons italiennes pour vol de voiture que les geôles allemandes pour espionnage. Je le crains, en effet, fit le colonel. Espérons que les Italiens laisseront vite tomber l'enquête. Ces gens-là sont des velléitaires. Oh, Kevin, méfie-toi des idées reçues. C'est parce que les Français prenaient les Allemands pour des abrutis qu'ils ont construit la ligne Maginot. Rome. Mario Volponi n'était pas un velléitaire. Depuis sa mésaventure dans le train, il ne décolérait pas. Il s'en voulait d'être aussi sot et d'avoir pris ses deux espions pour de paisibles voyageurs. Tout cela, le policier le savait bien, était dû à une seule cause. Cet homme venu d'ailleurs l'avait impressionné. Comment s'appelait-il déjà? Carliconi, Dolicardo, Policardi? Oui, c'était cela, Policardi, Fiorello Policardi. Non que cela eût la moindre importance, puisque ce n'était pas son vrai nom. Volponi avait un talon d'Achille. Contrairement à ce qu'il racontait volontiers, son père n'était pas professeur d'université, mais marchand des quatre saisons, frutti vendolo ambulante. Lui-même n'avait jamais été titulaire de la moindre chaire dans une quelconque université, même s'il avait donné des cours du soir, des cours de dessin, à des crétins qui ne savaient même pas tenir un crayon. S'il se faisait appeler dottore, c'était pour remettre les pendules à l'heure. Il estimait mériter ce titre, car jadis, à ses heures perdues, il s'était intéressé aux langues. Il n'était pas plus bête, après tout, que tous ces gosses de riches bardés de diplômes qui s'étaient tout juste donné la peine de naître. Tous les attendaient au pied du berceau, le nom, le statut, l'hôtel particulier, la riche bibliothèque, les meilleures écoles, les sports d'hiver, les voyages à l'étranger, l'oncle ministre qui saurait l'heure venue frapper pour eux à la bonne porte. Sans compter la décapotable pour leurs 20 ans et donc les belles filles à la pelle. Lui, Mario Volponi, n'avait que sa rage, plus une petite licence qui lui donnait tout juste le droit d'enseigner le dessin. Et ce n'était certes pas pour rien qu'il s'était jeté dans les bras du Duce. Le fascisme, en somme, avait été sa seule chance, celle qui lui permettait aujourd'hui d'avoir enfin, au ministère de l'Intérieur, le poste et le salaire qui correspondaient à ses mérites. Mussolini, lui aussi, venait du peuple. C'était le fils d'un forgeron et d'une institutrice. Il couchait sur la paille, non dans un lit à baldaquin. Et s'il était devenu le premier des Italiens, c'était seul, à la force du poignet. Sa première tasse de café, c'est à 20 ans que le Duce l'avait bu. Résultat, Mario Volponi ne s'était même pas rendu compte qu'il voyageait avec des espions, car ce soi-disant Policardi lui en avait imposé sur le plan intellectuel. Il parlait littérature, histoire ou philologie, connaissait Pierre Benoît et parlait le pur italien de Florence. Flatté, le policier avait voulu se montrer à la hauteur et étaler ses connaissances. Je suis un crétin, pensa-t-il. Restait une certitude. Ces hommes venus de l'étranger avaient des complices à Rome, puisqu'ils s'étaient évanouis sans laisser la moindre trace. Malgré les contrôles dans les hôtels et les barrages sur les grands axes, la police ignorait toujours ce qu'ils étaient devenus. Volpone se reprocha d'avoir été aussi optimiste. C'est dans toute l'Italie du Nord que le policier aurait dû rechercher ces deux individus, pourtant si faciles à reconnaître, un barbu et un sourd-muet. La barbe, en tout cas, était vraie, de cela au moins il était sûr. La leçon était amère, mais elle pouvait être salutaire. Par chance, elle n'avait pas eu de témoin. Eh bien, il ne fallait pas se décourager, mais au contraire, intensifier les recherches. Volpone décida qu'il ferait imprimer sans plus tarder les portraits des deux espions en milliers d'exemplaires, des portraits réussis d'ailleurs, et dont il était très fier. Si ces ordures avaient déjà franchi la frontière, eh bien, le policier les retrouverait où que ce fût, en Suisse, en France, en Allemagne ou en Terre de Feu. Berlin. Poussé par une ferveur nouvelle, l'Unterfeldwebel, Rudolf Breuer, décida de mettre les bouchées doubles. Il passa 2 jours sans quitter son bureau, sinon pour aller grignoter un sandwich ou passer aux toilettes. Son travail fut récompensé. Il découvrit tout d'abord que les 2 passeports manquants avaient un point commun. Ils commençaient par le chiffre 1, lequel présente un avantage sur les 9 autres, puisqu'un trait discret à l'encre de Chine peut le transformer en 7. Ce qui prouvait au moins ceci. Les documents étaient destinés à des ennemis intérieurs du Reich, lesquels entendaient quitter l'Allemagne pour mieux la trahir. De cela, Breuer n'avait jamais douté, mais il lui manquait cet indice que ses recherches patientes venaient enfin de découvrir. Un pas de géant était fait. Il suffirait de demander aux polices des frontières de se méfier, en priorité, des passeports commençant par 1 ou par 7. Puis Breuer relut ligne après ligne le dossier de Wurtz, en commençant par ce qui pour lui était le plus important, ses états de carrière. Et là, force était d'admettre qu'il convenait d'être prudent. Tout montrait que le suspect était en effet protégé par le Führer. C'était Hitler, sa signature l'attestait, qui avait ordonné à Konrad Patzig, le prédécesseur de Canaris, d'envoyer Martin en Amérique du Sud à la fin de juin 1934. C'était encore lui qui le rappelait en Allemagne en 1939, quelques semaines après le départ de Jutta pour l'Inde. C'était toujours lui qui, en mai 1941, le chargeait de surveiller Subhas Chandra Bose. Bref, c'était indéniable. Hitler et Martin étaient très liés. Ils s'étaient d'ailleurs rencontrés à la chancellerie quelques jours plus tôt. On pouvait même penser que le Führer était revenu à Berlin tout exprès de son QG de Prusse orientale. Tout cela apportait de l'eau au moulin de Breuer. N'est-ce pas parmi les proches, les vieux amis, les copains d'enfance que se recrutent les traîtres? César lui-même avait compris trop tard que Brutus le trahissait. Tu quoque mi fili. Rien n'interdisait de craindre que Martin Wurtz, l'ami d'enfance, ne fût le Brutus de Hitler. D'autant qu'il y avait des ombres au tableau. Wurtz, et c'était un signe qui ne trompait pas, était allergique à l'administration, ne respectait pas les lignes budgétaires et oubliait de remplir à temps les ordres de mission. Il lui était même arrivé, quelques mois auparavant, de remettre au service comptable une note de frais erronée. 209 kilomètres, alors que la distance exacte était de 200, ce que Breuer avait vérifié en personne. 9 kilomètres sur un trajet de 200, c'est considérable. Cela correspond à 45 kilomètres sur 1000, 450 sur 10 000. Si tous les employés de l'Abwehr se mettaient à imiter cet escroc, on atteindrait vite la circonférence de la Terre. Peccadille? Certes non. C'était avec de tels détails que se perdaient les guerres. Le moindre marque devait servir à la victoire du Reich. Le tromper sur des notes de frais, donner des coups de téléphone personnel, tirer 2 fois la chasse d'eau, c'était déjà trahir. Il convenait, en outre, de se méfier en priorité de ces dégénérés comme Wurtz, dont les mœurs contre nature étaient avérées. Par la faute de Canaris, qui fermait les yeux, ces gens avaient pignon sur rue à l'Abwehr. Il y en avait aussi dans l'entourage de Hitler, à commencer par ce médiocre sculpteur, Brecker, dont le Führer s'était entiché, alors que ce prétendu artiste était cul et chemise avec des juifs parisiens. L'assassinat de César, la conspiration de Saint-Marc et l'affaire Röhm prouvaient que tous ces Schwulen étaient par nature des traîtres. N'était-ce pas pour une histoire d'homme que la Grande Guerre avait éclaté et que par voie de conséquence l'Allemagne s'était retrouvée humiliée? On le disait en tout cas. Bref, la bonté de Hitler risquait de le perdre. S'en prendre aux Juifs était une excellente chose, mais à condition de combattre dans le même temps tous leurs complices, les communistes, les francs-maçons, les tziganes, les décadents et les invertis. Non que les Anglais fussent plus malins, puisqu'en Égypte, ils venaient de confier le sort de leurs armes à Montgomery. Risible! Le viril Rommel ferait une bouchée de cette blopette. Royer frissonna de dégoût. La nature humaine, hélas, avait grand besoin d'être réformée. Eh bien, il s'en chargerait. Il sortit un dossier vierge de son tiroir et y calligraphia à l'encre de Chine un nouveau nom de code, Brutus. Il y glissa tous les documents sur Martin Wurtz en sa possession, puis reclassa le tout dans un grand fichier à la lettre B. Château de Wewelsburg. Himmler, à présent, s'en rendait compte. Il avait fait une erreur en confiant une mission à cet imbécile de Breuer. L'idée, à première vue, lui semblait bonne. Grossir le dossier à charge de Canaris aurait été une excellente chose en soi, dont chacun se serait félicité un jour, à condition d'ici là d'avancer à pas feutrés. Or, le gratte-papier prenait la chose trop à cœur. Il bombardait Himmler de rapports confidentiels, contournant soudain cette voie hiérarchique dont il s'était naguère fait le chantre. Son style administratif était celui d'un sergent-chef. Sous sa plume, rien n'était simple. Il faut 1h40 adverbes à Breuer pour dire qu'il pleut, ironisait Canaris, qui ajoutait aussitôt, et quand il l'a enfin dit, la pluie a depuis longtemps cessé de tomber. Même le Reichsminister Goebbels en avait sa claque de recevoir chaque semaine ses lettres de délation. Il suggéra à Himmler de parachuter Breuer sur Londres. Il y avait plus grave que la lourdeur de sa prose. Il était dans sa nature de procéder par allusion, puis de coucher noir sur blanc le nom de ceux qui, à ses yeux, étaient suspects. Son dernier rapport, par exemple, laissait entendre que Canaris et Lahusen étaient des traîtres. Pire encore, selon lui, Martin Wurtz, ami d'enfance de Hitler, était un dégénéré curieusement protégé par le Führer. Himmler connaissait les choses de la vie. Certaines conduites lui soulevaient le cœur, mais seules comptaient l'objectif final. Les gens pouvaient bien baiser avec des chèvres, des teckels ou des carpes s'ils le faisaient en pensant à Hitler. Reste que l'adverbe utilisé par Breuer, curieusement, était de trop. On se retrouvait à Stalingrad ou à Dachau pour moins que cela. Trudy Schneider était plus finaude. Elle coincerait bien Wurtz toute seule, en tout cas sans l'aide de ce bègue impuissant, tout juste bon à fouiner dans les coins. Himmler déchira avec soin les trois derniers rapports et les brûla au-dessus d'un cendrier de verre. Puis il se dirigea vers la fenêtre, l'ouvrit et dispersa les cendres. Ces documents, décida-t-il, n'ont jamais existé. Cela fait, il revint à son bureau. Des décisions urgentes s'imposaient. Il était tentant d'éliminer Breuer, mais Himmler avait été formé par les bons pères. C'était un homme de parole. Puisqu'il avait parlé de promotion, il y aurait une promotion. La solution était trouvée. Les camps manquaient de cadres compétents, de bureaucrates accomplis, de vrais Allemands dévoués à la cause, des hommes triés sur le volet, prêts à exécuter les ordres de la Gestapo sans se poser de vaines questions. D'autant que pour d'évidentes raisons de sécurité, Himmler éclata de rire, ce qui se passait derrière les barbelés devait rester confidentiel, strictement confidentiel, comme aurait dit ce pitre de Breuer. Il saisit une carte et se mit à réfléchir. Ma foi, pourquoi pas Buchenwald? Le nom était bucolique à souhait, et Weimar se trouvait à deux pas. ce qui permettrait à Breuer de prendre le train une fois par mois pour aller border sa vieille maman à l'agonie. D'un trait de plume, Breuer fut nommé Feldwebel. Certes, il faudrait attendre quelques jours avant de lui annoncer la bonne nouvelle. Le chef des SS soupira. « Allons, Heinrich, pensa-t-il, fais un beau geste. » Il barra Feldwebel et écrivit Oberfeldwebel, adjudant-chef. Une promotion à titre exceptionnel. Breuer, bien que bas de plafond, était titulaire d'un doctorat. Il avait traqué les coquilles et les traîtres pendant des années. Toute peine mérite salaire. Bien sûr, il y aurait des coups de téléphone à donner et d'autres papiers à signer. Même le Parti national-socialiste n'avait pu abolir l'administration, ce qui d'ailleurs mettait le Führer en rage. Une chose était sûre, le nouvel Oberfeldwebel Rudolf Breuer serait parfait dans ses nouvelles fonctions. Monastère de Horlingern. Alors qu'ils approchaient du lac de Starnberg, au sud de Munich, ils bifurquèrent et s'enfoncèrent dans la campagne. Le voyage s'était passé sans incident, et à la grande surprise des deux hommes, ils n'avaient croisé que quelques camions de l'armée qui descendaient vers le sud. Christen s'étonnait de retrouver cette Allemagne verdoyante et propre qu'il connaissait. Cette Allemagne rurale avait peu souffert de la guerre. Les bombardements ne touchaient que les ports et les villes du nord. Presque tout l'effort des Alliés se concentrait sur l'Égypte. Ils arrivèrent au monastère cistercien sur le coup de 16 heures, ce dimanche 6 septembre. C'était une lourde bâtisse aux murs recouverts de lierre. Son style néo-gothique indiquait que sa construction remontait au 19e siècle. Christen tira la cloche que les visiteurs étaient invités à utiliser pour prévenir le portier. Rien ne se produisit et il fallut renouveler l'opération. Cette fois, un bruit de pas se fit entendre. Le portail gémit sur ses gonds et un vieux moine apparut. Christen le reconnut tout de suite. C'était bien Alcibiade, le père Klaus Drucker. Sa jambe de bois ne laissait guère de doute à ce sujet. « Bonjour, mon père. Je suis Monseigneur da Silva, de passage en Bavière. » Il avait pris l'accent indien, ce qui fit sourire le moine. « Bienvenue à Horlingern, éminence. Vous êtes ici dans la maison de Dieu. Veuillez excuser mon allemand, mon père, mais je viens de Goa. Il faut de tout pour faire un monde. » Surtout par les temps qui courent. Le mot de passe était le bon. Christen et Drucker poussèrent en même temps un soupir de soulagement. Le moine aussitôt changea d'attitude. « Rentrez vite la voiture pour que je puisse refermer le portail. Il arrive souvent que les camions militaires passent dans le coin. » Lloyd fit signe à Tapa rester derrière son volant. Le Gurkha relança le moteur et l'instant d'après, l'Hispano-Suiza pénétrait dans l'allée centrale du monastère. Le père Drucker arborait un large sourire. Il prit Christen par le bras. « Ah, éminence, j'attendais tant votre visite !» Lloyd éclata de rire et répondit en pur allemand « Laissons tomber les titres, je ne suis même pas sous-diacre. Et d'ailleurs, je ne crois pas en Dieu. » Le moine fit la grimace. « Oh, vous seriez surpris du nombre de cardinaux qui, sous la torture, vous confirmeraient qu'ils croient vraiment en Dieu. » Leurs parents les ont mis sur des rails, et depuis, ils font comme si, tout simplement. Les trois hommes avançaient à pas lents dans l'allée. Notez bien, poursuivit Drucker, qu'il en est de même partout. Les gens mariés évoquent un amour auquel ils ne croient plus, et les communistes italiens, français ou anglais n'ont aucune envie de s'installer en URSS. Vous savez ce qui me chagrine le plus aujourd'hui? Que les Allemands aient donné à leur voiture le nom de la Vierge. Marie de toute grâce, Notre-Dame de la Merci, Mercedes en espagnol. Oh, pardonnez-moi, je vous ennuie avec mes cours. Félicitations en tout cas, votre allemand est parfait. J'y décèle même une trace d'accent bavarois. Christen acquiesça. Mon grand-père était de Munich et l'allemand est ma langue maternelle. Je n'ai donc aucun mérite. C'est comme si vous me félicitiez de la texture de ma peau ou de la couleur de mes cheveux. Le moine hocha la tête. Eh bien, vous êtes une exception. Les gens se flattent volontiers de ce que la nature ou le hasard leur a offert à la naissance. Ils s'arrêtèrent un instant au pied d'un grand calvaire. Assis sur un banc, un moine récitait son chapelet à haute voix. Sa main tremblotante glissait d'un grain à l'autre. Le vieillard ne leur accorda pas la moindre attention. Son royaume, déjà, n'était plus de ce monde. Tout cela, poursuivit Drucker, comme s'il se parlait à lui-même, explique pourquoi nous en sommes là. Si Hitler, Staline et Mussolini sont suivis par la foule, c'est parce que beaucoup de gens n'ont pas été gâtés par la nature. Alors ils espèrent avoir un jour, eux aussi, une part du gâteau. Mais, excusez-moi, je radote. Des formations professionnelles. J'ai enseigné la philo pendant des années. Disons que je fais des vocalises. Allons, éminence, notez au passage la stupidité de ce titre. Vous êtes ici chez vous, je le répète. Nous ne sommes plus que 5 moines, et je suis de loin le plus jeune. Les autres ont plus de 90 ans, sourds comme des pots, et gagnés par la cataracte. Ils ne reconnaîtraient pas le Führer si d'aventure ils le croisaient à la chapelle. Au fait, vous savez que Hitler a été enfant de cœur? Si, si, je vous assure. Le prieur de Lambach en personne me l'a confirmé. C'est d'ailleurs là-bas, dans cette abbaye, qu'il aurait vu ses premières croix gammées. Un père abbé en avait fait graver des dizaines dans son monastère. Christen pensait à autre chose. « Excusez-moi, mon père, il n'y a aucun civil au monastère ?»« Non, c'est moi qui fais tout ici. Je suis portier, hôtelier, confesseur, infirmier, secrétaire, économe, croque-mort, bedeau, cuisinier. Et oui, nourriture végétarienne, bien entendu. Nous avons cela en commun avec le Führer. Bref, nous vivons en autarcie. » Ils arrivaient au bout de l'allée, près de la chapelle. Le père Drucker les fit entrer dans le parloir, près des cuisines. Quand ils furent assis, le moine s'absenta quelques instants et revint avec une bouteille de vin blanc et 3 verres. Le visage de Tapa s'épanouit. Gewurztraminer 1932. Il se laisse boire. C'est une des rares bouteilles que les SS n'ont pas découvertes lors de leur dernière razzia. J'en avais caché une caisse dans un confessionnal. Bon, je ne suis pas censé boire, mais Dieu non plus n'est pas censé nous abandonner, et il le fait. De toute façon, si Jésus a changé l'eau en vin au noce de Cana, c'est bien la preuve qu'il n'était pas contre un bon verre. Ils trinquèrent à Marie de la Merci, la Mercédès du ciel. Christen et Tapa auraient besoin de sa protection au cours des prochains jours. « Nous comptons passer la nuit ici et repartir pour Berlin demain matin, » reprit Christen. « Vous avez des armes et de l'argent pour nous, je crois. » Le moine acquiesça. « Nous verrons cela plus tard, » reprit Christen. « En cas d'urgence, serait-il possible d'envoyer un message à Londres ?» Drucker secoua la tête. « Non. Je n'allume le poste qu'une fois par mois. Le prochain contact aura lieu à minuit dans la nuit du 16 au 17 septembre. » Le prêtre s'apprêtait à poursuivre quand un bruit de moteur se fit entendre. Des pneus crissèrent sur le gravier devant la porterie, puis la cloche se mit à sonner. Le moine blêmit, se leva sans rien dire, et d'un pas lent se dirigea vers le portail. Dès le premier coup de cloche, Tapa avait filé aux cuisines. Il ne tarda pas à en revenir, un grand couteau à la main.